Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Vous savez, tous les jours de la semaine, je vous retrouve en direct entre 13h et 15h et en solo. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, c'est notre rendez-vous annuel avec les talents du luxe. Ces hommes et ces femmes repérés par le centre du luxe et de la création pour leur savoir-faire. Ils sont tailleurs, ils sont chefs, fabricants de bateaux ou encore éditeurs de tissus, horlogers ou créateurs. Mais aussi dentelières d'or, maisons de tapisserie ou encore chausseurs parisiens. Et ces trois-là seront avec nous dans un instant. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, on commence comme habituellement par nos tables, Emmanuel. Et cette semaine, l'actualité des tables, eh bien, c'est évidemment le Guide Michelin.
Oui, alors j'allais dire, c'est le plus grand restaurant de France avec toutes ces tables. Alors bien évidemment, comme à chaque fois, le Guide Michelin édition 2016, on parle d'abord et surtout des 3 étoiles. Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors le palmarès, on rappelle, de nouveau 3 étoiles sur toute la France. Et de nouveau 3 étoiles sont parisiens. En classe Palace, Ducasse, au Plaza, Christian Le Square, au 5 du Georges V. Ce qu'on a un peu oublié de dire, c'est qu'il y a un troisième 3 étoiles. C'est Guy Savoy à la Monnaie de Paris. Guy Savoy, il y a un an, il était rue Troyon dans le 17e. Il a tout a changé. Le décor, le service, le cadre, le quartier et la cuisine s'est bousculée. Donc il récupère ses 3 étoiles, ce qui fait en vérité 3 étoiles. Et allez donc, franchement, chez Guy Savoy, parce qu'il est en pleine forme. Côté 2 étoiles, on en parle un peu moins, et pourtant c'est des tables qui poussent assez fort sur le champignon. Et cette année, elles étaient en pleine forme. L'arrivée directe à 2 étoiles de Jean-François Piège, grand restaurant, rue d'Aguesse au 8e arrondissement. Toutes ces adresses, hein, on les avait analysées, critiquées, plébiscitées pour la plupart, bien avant le Guide Rouge. Wayne Sylvestre, qui a repris les cuisines du tout mieux, la brasserie de la rue Saint-Denis dans le 7e arrondissement, deux niveaux d'adresse, la brasserie au rez-de-chaussée, et puis un salon particulier, beaucoup plus gastronomique, à l'étage, direct 2 étoiles Michelin. Il les avait déjà à Courchevel. Et puis, dernier personnage, un certain Mathieu Pacot, le fils de Bernard Pacot, vous savez. Bernard Pacot, c'est le grand homme de l'Ambroisie, 3 étoiles depuis des lustres, du côté de la place des Vosges. Son fils vole de ses propres ailes aujourd'hui. Il a ouvert cette année plusieurs adresses, toutes dans le même endroit. Nous sommes du côté de l'avenue Kléber. Il a d'abord ouvert l'Hexagone, qui est une brasserie très très haut de gamme, une étoile Michelin direct. Et puis là encore, un petit salon de curiosité culinaire qui s'appelle Histoire, avec un S au pluriel. 2 étoiles. À lui seul, il récupère 3 étoiles. Dans quelques instants, je vous parle de la suite des 1 étoile, des bibes, etc.
Ah oui, parce qu'il y en a quelques-uns. Combien de restaurants récompensés en tout? Je ne sais plus, il y en a...
Sur toute la France? Oui. Une trentaine,
ouais.
Qui est écope de la fameuse étoile.
Eh bien, c'est ça.
Écope, c'est l'absus très révélateur.
C'est ça. Allez, une nouvelle adresse, Paco Rabanne. Paco Rabanne, ce n'est pas tout à fait nouveau, sauf que là, il a une vraie boutique qui revient rue Cambon, sous l'impulsion de Julien Dossena. Et c'est là que ça devient intéressant. Il est le nouveau directeur artistique de la maison depuis 2013. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu une succession quand même, de directeurs artistiques dans cette maison. Et enfin, lui, Julien Dossena, a réussi à trouver véritablement une nouvelle impulsion pour la maison. Ses derniers défilés ont été salués par la presse. Et du coup, une véritable nouvelle identité. Il inscrit Paco Rabanne dans le 21e siècle. Et donc, dans ces 65 mètres carrés qui ont ouvert en janvier au 12 rue Cambon, on retrouve tout ce nouvel esprit Paco Rabanne, donc dans le premier arrondissement de Paris. Allez, Web de Luxe.
Web de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Sandy Prenois,
bonjour.
Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe sur le web cette semaine?
Comme toujours, beaucoup de choses. Un site à découvrir, soyez bcbg.fr. Alors là, c'est...
Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette formule.
BCBG.
Ça veut dire quoi déjà?
Smart,
bon chic,
poche,
bon genre.
Ce genre de genre, bon voilà.
Bon, pour les plus
pressing,
vulgaires, hein.
Pressing, retouche de vêtements, cordonnerie, tout ça à domicile, ça a l'air de rien. Et pourtant, c'est juste ce que j'appelle le net plus ultra. On vient chercher vos vêtements chez vous. On les livre à des pressings, on vous les ramène 24 heures après. Idem pour les retouches de vêtements, si vous avez besoin de refaire un bouton, un ourlet, remettre une fermeture éclair, c'est pareil. Alors là, vous rajoutez 24 heures si en plus le vêtement a besoin d'être lavé. Cordonnerie, même combat, on vient chercher vos chaussures, on les livre aux cordonniers partenaires et on vous ramène. Il faut un minimum de 15€ pour bénéficier de ce service groom. Le groom, ça coûte 6€ supplémentaires, 50€ gratuits. Et c'est un groom qui s'appelle Edouard. Et là, je trouve que c'est rigolo parce que c'est Edouard qui vient chez vous, qui s'occupe de vos petites affaires. faire.
Hein, vous avez craqué.
En vérité, il s'appelle Kevin. Hein, le besoin de la cause, c'est Edouard.
Soyez bcbg.fr pour ce nouveau service. Ouais. Dogood.com.
Dogood. Alors là, c'est un site qui va référencer de jeunes marques de produits cosmétiques qui sont peu connues ou pas encore. On a généralement des marques françaises, généralement du bio, du naturel. Tout le monde peut y trouver son compte. Les femmes, alors les soins visage, j'en passe, elles ont absolument tout. Les enfants aussi, les bébés, les teenagers qui peuvent avoir des petits bains moussants, enfin plein de petites choses comme ça. Et puis les hommes qui ont par exemple du baume à barbe. Alors j'ai pensé à la brillantine comme pour les cheveux, ça vous fait le poil tout doux.
Ouais, je vais la raser pour pouvoir y goûter.
Non, je vais la raser, c'est juste la paresse moi.
Donc ça s'appelle dogood.com. Ouais. Et puis enfin la nouvelle campagne Tommy Hilfiger sur la toile.
Qui fait du bien parce que ça nous annonce un petit peu les saisons un peu plus douces, le printemps, l'été. On découvre la collection des rayures, de la couleur, des volants. C'est beaucoup de choses. Il y a plein de sweatshirts d'ONU, des petites jupettes. Voilà, c'est bien. Ça annonce cette collection.
Déjà
le printemps dans deux mois. Et puis la campagne, elle est jolie, mais en fait, on peut la voir
sur la toile et les réseaux sociaux.
Et la toile et les réseaux sociaux, évidemment, plein de vues.
Ah, ça vous fait rêver, on est déjà en vacances.
Ouais, on met la jupe, c'est bon.
Merci infiniment, Sandy Prono. À la semaine prochaine. Allez, Emmanuel, on continue donc sur notre Michelin.
Suite. Avec les une étoile Michelin, et là c'est souvent ce qu'il y a de plus intéressant en vérité, parce que les trois étoiles aujourd'hui, c'est surtout parisien, c'est la stratosphère, faut bien comprendre que ça touche une élite. Les deux étoiles, c'est un peu plus abordable, quoique, les une étoile, c'est souvent la belle affaire. Et là, le Michelin, il a toujours un petit temps de retard, ça faut bien le reconnaître. Alors là, il le prouve encore une fois, mais c'est pas très grave. Il va enfin sanctifier, au moment où peut-être certains fous de gastronomie commencent à s'enlacer, cette jeune veine, cette jeune garde, cette jeune scène japonaise qui, depuis quelques saisons, n'en finissent pas de rendre hommage à la cuisine française. Parmi les une étoile, trois adresses sont orchestrées par ces jeunes chefs japonais. Une étoile à Neige d'été, c'est dans le 15e arrondissement. Une étoile à Page, c'est dans le 16e. Une étoile dans une adresse dont je ne peux pas vous dire le nom tellement c'est compliqué, dans le 6e, où j'irai voir l'édition du guide Michelin. Bref, la jeune garde japonaise orchestrant et rendant hommage à la cuisine cocardière est enfin sanctifiée par le Michelin. De la même manière que ce qu'on a appelé la haute bistronomie, ils n'y ont rien compris, Michelin, ils sont passés à côté depuis des années. Mais bon, lentement, sûrement, ils commencent à y arriver. Alors l'année dernière, ils avaient sanctifié le 7e. Du côté de la rue de Chambreton. Cette année, c'est le Saturne du côté de la Bourse qui récope rue de la Banque, qui a une étoile Michelin. On peut espérer que peut-être dans 2-3 ans, ils mettront une étoile, un macaron au Frenchie de la rue du Nil. Bon, dans l'ensemble, le paysage gastronomique parisien est plutôt gentiment respecté. Du côté des déclassés, Ducasse, c'est le jeu de Bonneto. Hein. Il gagne 3 étoiles au Plaza, il en perd une au Meurice, il en perd une dans sa brasserie marine Le Rèche du 17e arrondissement. Joël Rebuchon, qui lui va gagner 2 étoiles à Bordeaux, mais qui en perd une à Paris. Son atelier Rebuchon, alors on se demande pourquoi il lui retire une étoile, c'est toujours très bien, impeccable dans le genre, du côté de la rue Montalembert, dans le 6e arrondissement, moins une étoile. Dans l'ensemble, un joli petit cru, un Michelin qui, comme d'habitude, Micheline, gentiment.
Ça fait toujours parler, hein, en tout cas.
Faut quand même rendre hommage à l'institution qui perd de plus en plus d'influence, mais qui reste une institution. On attend encore que ce bon sang de gros livre rouge fasse sa révolution. Mais bon.
C'est marrant, c'est pas ce que nous disait Alain Ducasse.
Alain Ducasse, vous savez, pendant des années, le Michelin a fait la loi auprès des chefs. Depuis quelques temps, ce sont les chefs qui, en sourdine, font la loi auprès du Michelin. Et les langues se délient. Et Ducasse, il y a quelques jours, juste avant la sortie du guide, lundi dernier, balançait sec autour du guide Michelin. Je crois que vous l'avez reçu cette semaine.
Exactement.
Dans les Good Looks quotidien. Il commençait à gentiment baisser le ton. Vous savez, c'est l'aval, ça se danse à deux. On n'a jamais très bien compris. Bon, globalement, nous, en tant que mangeurs, en tant que lecteurs, on s'en sort pas trop mal, même si on n'a plus vraiment besoin de lui. Il suffit de nous écouter toutes les semaines. On avait balancé ça bien avant lui.
Allez, un nouvel hôtel. Ça faisait longtemps. Alors, un hôtel qui n'est pas extraordinaire, qui est juste un hôtel bourgeois des beaux quartiers du côté de Saint-Germain. On est 3 rues du Pré-au-Clair dans le 7e arrondissement de Paris, 4 étoiles. Mais l'idée de Bertrand Placement, propriétaire et directeur, qui est notamment passé par le Crillon, qui a véritablement un parcours d'hôtelier, c'est d'offrir le charme discret de la bourgeoisie, en quelque sorte. Donc, il a acheté 3 quand même hôtels particuliers, du côté de la rue du Pré-au-Clair. Donc, vous voyez, on est quand même dans du bel haussmannien. 54 chambres, donc 13 suites et un appartement. Puis tout ce qui va autour, le petit bar cosy avec comptoir en acajou, liste de cocktails, le salon avec cheminée, bibliothèque, le restaurant qu'il faudra aller tester, Manuel, qui s'appelle Kult, K-U-L-T. Néo Bistrot, c'est le chef de La Fable qui
oui,
tient ça.
Qui
voilà.
Est pas très loin dans le quartier, bon
donc
chef.
Donc c'est une trentaine de places, donc il faudra aller tester ça. La petite salle de sport, le hammam, tout ça, ambiance 19e siècle. Des petites photos noires et blanches de Saint-Germain-des-Prés. L'idée, c'est la discrétion. Et le petit détail qui tue, c'est la vraie clé pour ouvrir votre porte. Ça s'appelle Le Saint et ses 3 rues du Pré-au-Clair dans le 7e arrondissement de Paris. Très rapidement, Emmanuel, pour l'objet de la semaine, c'est vous qui vous y collez cette semaine avec une couleur.
Une couleur, c'est le bleu Klein. Alors Yves Klein, on rappelle, grand artiste, carrière de comète, mais énorme. Et je ne sais pas pourquoi les marques de luxe s'emparent de ce bleu-là, de ces chromis-là. Alors c'est d'abord Weston qui dessine et qui lance ces jours-ci son fameux mocassin qu'on appelle désormais le moc aux couleurs du fameux bleu Klein. Mais à mon sens, beaucoup plus inspiré. J'aime beaucoup l'énergie de Weston, mais c'est la maison Lalique. Lalique qui avait déjà travaillé avec les archives Yves Klein en lançant et en recréant une des œuvres d'Yves Klein qui était la Victoire de Samothrace. Là, ils ont pris une autre œuvre qu'il avait créée dans son atelier de la rue Campagne Première dans le 14e en 61 qui s'appelait la Terre bleue. Et c'est vraiment le bleu, c'est la couleur fétiche d'Yves Klein. La terre, j'allais dire, c'est son élément sorcier. Elle revient beaucoup dans son œuvre. Ils ont repris cette œuvre de 61 et en édition très limitée, ils ont créé en cristal, reproduit en cristal
donc
cette
un globe
œuvre,
terrestre.
Un globe terrestre en cristal. L'œuvre d'Yves Klein n'était pas en cristal. On est vraiment dans les dimensions de l'œuvre, pièce terriblement unique. Alors on est vraiment dans un globe. Hein. On est dans une œuvre d'art, dans un élément de style très très réussi. Et puis, voilà, c'est quand même, il a créé une couleur, Yves Klein. Et franchement, créer un bleu, c'est, je crois, créer une couleur pour un artiste, c'est énorme. Je comprends que les maisons aient envie de lui rendre hommage.
De s'en inspirer. Allez, c'est tout.
C'est dommage, c'est j'aurais tout, bien porté les Weston bleus quand même.
Mais c'était
au moins une journée.
Il aurait eu. Voilà, on est véritablement sur des talents du luxe. Et justement, c'est le propos d'aujourd'hui dans Good Luxe Paris, tous ces talents qui font que le luxe a cette créativité encore en 2016. On en parle dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des Good Luxe talentueux cette semaine, c'est notre rendez-vous annuel avec le Centre du Luxe et de la Création qui remettait lundi ces fameux talents du luxe et de la création. Quelques-uns sont avec nous en plateau aujourd'hui, mais d'abord on va présenter ce qu'est ce Centre du Luxe et ce que sont ces talents avec Jacques Carl. Bonjour.
Bonjour.
Président du Centre du Luxe et de la Création. Et donc vous êtes venu avec quelques talents. Alors les talents du Centre du Luxe et de la Création, on les repère, comment dire, par leur qualité, l'audace, la rareté, l'originalité, le bien-être, que sais-je. Donc nous avons en plateau deux ex-aequo, les lauréates du talent de la rareté. Patricia Racine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice artistique de la maison de tapisserie Robert Four. Et nous avons également Sarah Braun, bonjour.
Sarah Braun, pardon.
Vous êtes dentelière sur or, un véritable métier et savoir-faire que vous avez pratiquement inventé. Et nous avons aussi un talent de l'audace, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Gérard Séné, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tailleur, dirigeant de la marque éponyme et aussi fabricant de chaussures. On y reviendra dans un instant.
Et rock'n'roll.
Et rock'n'roll, bien
c'est
sûr.
C'est pas moi qui le dis, c'est vous. On y reviendra dans un instant, il va falloir vous expliquer.
Je préfère que les autres me donnent un objectif que moi, c'est pas moi qui l'ai décidé.
C'est sûr.
Mais on est comme ça ou pas?
Jacques Carl, c'est ce qui fait la diversité des talents du luxe et de la création. Quand on regarde ne serait-ce que ce qui se passe autour de cette table, et ce qui s'est passé lundi soir, et ce qui se passe quand on voit les 150... Il y a combien de candidats au départ aux talents du luxe?
Près de 200. Ouais. Près de 200 candidats, 43 nominés et 16 lauréats, dont deux ex-aequo.
Ah, c'est marrant, les ex-aequo, c'était quand même le talent de la rareté.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez les ex-aequo, souvent le talent de la
rareté. Parce
ça,
que...
c'est votre principe de contradiction.
Bah, oui, c'est une contradiction, mais là, c'est aussi une conséquence du fait que le jury... trois fois de suite, ça a voté, et trois fois de suite est arrivé au même résultat, c'est-à-dire qu'il y avait deux lauréates.
Ah, mais donc, du coup, c'est un plébiscite.
La troisième fois, on dit, ben voilà,
on abandonne.
Il y a deux lauréates, deux ex-aequo. Il y a une année où il y a eu trois fois des ex-aequo, parce qu'il est parfois très difficile de départager des candidats qui viennent d'horizons très différents, puisque concours des stylistes, des designers,
des chefs, des cuisiniers.
Donc, comme ils concourent pour les valeurs du luxe, les valeurs sont très diverses, puisqu'elles viennent d'horizons différents, et il arrive qu'il y ait des coups de cœur chroniqueurs simultanés sur créateurs ayant des parcours tout à fait différents et des âges souvent tout à fait différents. Hein. On a des talents du luxe qui ont 25 ans. Aymeric François a été un des premiers. Il a été talent à 24 ans, talent de l'audace. Et il continue d'ailleurs dans sa trajectoire très audacieuse.
Dans la mode.
D'autres qui ont 75 ou 80 ans. Le talent n'a pas d'âge.
Et alors, les valeurs, effectivement, du lieu, j'en ai cité quelques-unes, mais si on va pas pouvoir citer tous les talentueux qui ont été récompensés, mais talents de l'audace, de l'invention, du bien-être, l'originalité, l'élégance, la rareté, l'harmonie, la sélection, l'innovation, le management, et j'en oublie. Mais l'idée, c'est que, du coup, aussi, et ce qui perturbe un petit peu, quand même, au départ, c'est qu'on mélange le tailleur, on mélange la dentelière, on mélange la tapisserie, on mélange les bateaux, Riva, par exemple.
On mélange pour mieux faire concourir autour de ces valeurs. On a étudié les différentes valeurs qui revenaient régulièrement dans toutes les activités du luxe, puisque c'est une approche transversale. Et quand vous dites élégance, séduction, bien-être, harmonie, dans tous les secteurs d'activité du luxe, ça peut s'appliquer. Donc on en a gardé 9 qui sont, je dirais, communes à tous les secteurs d'activité du luxe. On a rajouté le management parce qu'il y a aussi une fonction de direction et de développement. Et le management est apparu très vite comme une forme de création aussi et d'entretien de la création. Donc voilà pourquoi il y a 9 valeurs plus le management.
Mais c'est vrai, finalement, je vous vois hocher la tête tous les trois. Vous dites, bah, finalement, nous, le management, ça fait aussi partie de notre savoir-faire. Quand on est une TPE, une PME. Gérard Sennet, vous avez créé votre propre marque en 1992. C'est ça?
95.
J'étais pas loin. Aujourd'hui, vous êtes la tête d'une entreprise de combien de personnes?
Alors, en France, j'ai pas beaucoup de personnes, j'ai 6 personnes, mais après j'ai environ 80 personnes qui travaillent pour moi en atelier, mais toutes mes fabrications sont faites en Italie, dans des ateliers spécialisés. Donc par exemple, dans tout ce qui est costume, je fabrique chez des gens qui fabriquent déjà les meilleures maisons, bien sûr. Mais j'arrive avec mes propres codes, mes propres critères, et donc je fais réaliser ce que j'ai envie ou ce que mes clients ont besoin. Après, chaussures, j'ai un atelier qui ne travaille que pour moi, depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, parce que ma marque a 20 ans dans l'homme, mais elle existait déjà avant. Je faisais des vêtements de femmes, j'en ai fait pendant 30 ans, où j'ai eu des gens comme Mugler, Alaya, dans les années 70-80. Et donc j'ai vendu mes affaires il y a 25 ans, donc avec l'exclusivité par faire de femmes, de vêtements de femmes en tous les cas, et je me suis mis
c'est
à faire
ça,
de...
C'est ça, vous êtes allé d'affaires en affaires jusqu'à arriver finalement à ce qui vous plaît le mieux?
Bah non, c'est un concours de circonstances. Je faisais de la femme, donc dans la femme, vous êtes obligé d'être très rigoureux, inventif, etc. Quand je me suis mis à faire de l'homme, les créneaux étaient tous un
surtout
peu gris.
Surtout en 95, aujourd'hui c'est un univers qui commence à se structurer, mais en 95...
Ouais, mais j'avais déjà une cible. Tout à l'heure, vous demandiez pourquoi rock'n'roll, mais moi je suis né avec Eddie Cochrane, Jane Vincent, Elvis Presley.
Justement, vous recevez le talent de l'audace. Alors, avant de revenir un petit peu sur l'esprit, la philosophie, ce qui fait la griffe, Gérard Sennet, c'est quoi pour vous votre définition de l'audace? C'est pas simplement le joli trophée Lalique que vous avez reçu lundi dernier.
J'étais un peu surpris de l'audace. Je le prends parce que, bon, si j'avais eu ma mère encore vivante, elle aurait été très, très fière de son fils qu'il ait eu un prix, quel qu'il soit. Mais le problème, l'audace, moi je me trouve pas audacieux parce que je suis né avec ça. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, mes clients, ils sont tous connus. Salah Hallyday, Eddie Mitchell, à Julien Clerc. Est-ce que ces gens-là sont audacieux?
Non, on peut juste faire une petite parenthèse pour un petit peu donner une idée de l'audace. Est-ce que vous pouvez décrire la manière dont vous êtes habillé, Gérard Sennet, ce que vous portez au doigt comme bague? Ça te donnera peut-être un petit peu une idée de...
Non,
de
mais c'est une culture.
Oui.
La
non,
seule culture exemple... auquel je ne suis pas, que je n'ai pas cédé, c'est au tatouage. Mais c'est une culture, ça veut dire... Mais moi, mon rôle, c'est de me déguiser. Aujourd'hui, je suis comme ça. Demain, je
peux
avoir
fait
le costume de notre ami. J'ai pas de souci. D'abord, des fois, je suis habillé en trois pièces.
Le blouson, c'est vous qui l'avez fait?
Je ne peux pas. J'ai pas les moyens de m'habiller dans les grandes marques.
Sincèrement, c'est quand même intéressant, cette dimension du rock'n'roll. Vous le dites, vous êtes un peu un fils de la Trinité, cette génération yéli rock'n'roll.
Je suis pas un enfant du Golf de Rome, mais pas de la Trinité.
Ah bah, vous n'étiez pas dans le bon quartier, vous n'êtes pas un loulou alors.
Oui, mais c'est
vous
pas
êtes un petit amino, ça.
Oui, mais je dansais au Golf de Rome, et je n'étais pas la Trinité.
Mais bon, vous êtes cette génération-là. La dimension du rock'n'roll, vous l'affirmez, on le voit sur une partie. C'est quoi justement, pour beaucoup, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être peut-être pour ça qu'on vous admire tellement l'audace. Ça incarne quoi pour vous le rock'n'roll à l'instant de créer vos modèles?
Alors,
bien sûr, vous avez des clients célèbres, vous l'avez dit, Eddie Mitchell et bien d'autres, mais ça incarne quoi ce rock'n'roll?
Non, mais moi, j'ai pas cherché à affirmer quelque chose. Quand j'ai fait de l'homme, j'ai voulu me faire d'abord plaisir à moi. Ça veut dire, je suis pas vraiment un nostalgique parce que je fais des vêtements modernes, mais quand même, j'ai fait un rêve de gosse. Parce que sortir du quartier où j'étais, c'était la sape. Donc c'était être habillé comme un Milord, etc. Donc lorsque j'ai recommencé en 95, je me suis dit, allez là, ta cible, parce que c'était le paraître. Et donc aujourd'hui, on est aussi dans un monde futile, un certain stade. Et c'est très drôle parce qu'au bout de 20 ans, Gérard Lanvin un jour m'a dit, tu sais pourquoi on vient toujours chez toi? Moi, j'étais assez surpris. Il m'a dit, parce que tu es le dernier défenseur du rock'n'roll. Mais je ne l'ai jamais voulu. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas voulu. Quand vous dites, mais la peau exotique ou toutes les peaux, elles viennent des Indiens, c'est une culture. Donc elle vient, c'est sûr, d'Amérique, etc. Mais aujourd'hui, elle a fait, vous le savez, ce type de peau, elle est à TF1 tous les samedis soirs en ce moment.
C'est du vrai?
On peut pas porter du faux. C'est pas ça. Mais ça voudrait dire à ce moment-là qu'il n'y aurait plus le mot luxe dans mon histoire.
Ouais, attends, parce qu'on rappelle.
Moi, j'utilise les matériaux les plus luxes qui puissent exister.
C'est le croco, ça.
Oui.
Le fournisseur, la mesure, la demi-mesure, le sur-mesure. Derrière, je voudrais vous poser juste une question. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, quand on dit rock'n'roll encore aujourd'hui, mais on est en 2016. Aujourd'hui, le rock'n'roll, en vérité, c'est un nouveau classicisme. Aujourd'hui, c'est presque être classique que de porter du rock'n'roll, puisque les vagues musicales, les vagues d'énergie aujourd'hui, on parle, c'est le rap, c'est le hip-hop, le R&B. Ceux qui continuent d'être taillés dans les looks, avec tous les codes vestimentaires, même réinventés du rock'n'roll, finalement, sont des nouveaux classiques.
Oui, mais les rappeurs, ils s'inspirent, même dans le vêtement,
bien sûr,
ils sont dans cette histoire. Après, Elvis n'est pas mort. Vous le savez très bien, donc tous les jours ça circule. Donc en fait, il y a des icônes comme ça, que ce soit James Dean, etc. Toutes ces années-là, elles sont immortelles.
Et pour voir vos collections simplement, c'est juste pour dire, souvent on a tendance à dire, ouais, il est vintage et nostalgique, pas du tout. Moi je tiens à dire qu'aujourd'hui le rock'n'roll il a vécu, il est toujours très vivant, mais ça devient quasiment une forme de classicisme. Vraiment.
Non,
aujourd'hui,
mais vous êtes
c'est
obligé
des codes,
d'être
des éléments de style. Vous parliez du bouton de cuir. Aujourd'hui, c'est une pièce vestimentaire quasiment qui est rentrée dans la garde-robe classique que tu peux porter dans la vie privée, dans la vie publique, au bureau. C'est devenu vraiment un des grands référents classiques, comme le trench l'avait été dans les années 20, 30, comme le chapeau à une époque. Aujourd'hui, être rock'n'roll, c'est pas être nostalgique vintage, mais presque c'est être un néoclassique.
Non, mais les marques modernes d'aujourd'hui s'inspirent
de
Temptation.
Ça, et Disneyland.
Et donc, tous les films modernes, même quand on a fait les Blues Brothers, c'est des costumes des années 60. Donc les grandes maisons, les deux plus grandes maisons d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font des costumes? Il y a certains stylistes qui s'approprient l'affaire, mais John Cazavetes dans Johnny Staccato, c'est pas eux qui l'ont inventé, ils n'étaient pas nés. Et donc on est prisonniers de tout ça.
Et donc nous sommes
délicieusement prisonniers.
Ouais. En 2016. Donc effectivement le talent de Luda s'était remis à Gérard Séné. Il y en avait beaucoup d'autres, Jacquard qui était remis. Alors ce que disait Emmanuel tout à l'heure, à part le joli trophée Lalique qu'on a, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un talent du luxe et de la création à tous ces heureux lauréats?
D'abord, ça apporte, je dirais, une reconnaissance. Beaucoup de créateurs sont exceptionnels, mais travaillent dans l'ombre. C'est une mise en lumière. Ensuite, ça apporte de la notoriété. Et cette notoriété aide au développement. Il y a certains créateurs qui, grâce au talent du luxe, ont pu débloquer des situations extrêmement difficiles. Je cite souvent le cas du président de Repetto, Jean-Marc Gaucher, qui était en train de déposer son bilan au moment où il a eu le talent du management. Il a téléphoné à son banquier parce qu'il est assez alerte. Le banquier a dit, oh, extraordinaire, je vous remets votre ligne de crédit. Alors, c'est une histoire, c'est presque un conte. Mais ça s'est effectivement passé comme ça. Et on sait aujourd'hui quelle a été sa réussite. Donc voilà, c'est une reconnaissance, une notoriété et un potentiel.
Eh ben voilà, donc on verra qui sont les autres talents. On va quand même laisser parler ces dames parce qu'on n'a pas été très élégants.
Dans 5 minutes, ils vont parler de quelle?
Donc Emmanuel, on laissera parler ces dames dans un instant. Merci beaucoup à vous. On se retrouve tout de suite pour Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe qui ont de l'audace, de l'originalité, de la rareté, de l'élégance, de la séduction, de l'harmonie, de l'innovation. Bref, un peu comme les talents du luxe et de la création qui ont été remis lundi soir par le Centre du luxe et de la création. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Carle, président du Centre du luxe, et de trois de ses lauréats. Patricia Racine, talent de la rareté, également directrice artistique de Robert Four. Gérard Séné, directeur artistique de Gérard Séné, talent de l'audace. Et Sarah Brann, dentelière sur or, talent de la rareté. Ex aequo. Il va falloir nous expliquer ce que signifie dentelière sur or. On imagine bien, Sarah Brann, de la dentelle, de l'or, et finalement ça donne exactement la même chose, sauf qu'il fallait imaginer traiter le matériau qui est l'or de la même façon que la dentelle.
Alors comment ça vous est venu cette idée?
En cassant une pierre. Non, en fait, j'arrive de la sculpture, et du dessin, donc ça, ce sont mes premiers métiers, la sculpture sur pierre, avec un goût prononcé pour le détail. Donc je suis arrivée aux bijoux comme ça, en passant de l'un à l'autre, parce que j'aimais les bijoux. Et quand j'ai fait ma formation de bijoutier, fait que j'ai appris des techniques de bijouterie et de joaillerie, très vite, je suis arrivée à une technique qui est une technique de base que tout le monde connaît, la découpe manuelle. Au repercé, donc avec un instrument qui s'appelle la scie bocphile. Donc très concrètement, on fait des trous dans le métal, ce que font tous les joailliers de la place, pour mettre des pierres dans les trous.
Très bien.
Ça, tout le monde sait faire.
Tout le monde comprend, en tout cas.
Voilà, jusque-là, on suit. Et assez vite, je me suis rendu compte que quand on fait des découpes dans le métal, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière qui passe. Jusque-là, tout le monde me suit aussi.
Impeccable. Professeur.
Et la lumière, c'est intéressant. La lumière, c'est intéressant, on peut jouer avec, ça crée du volume, ça crée des formes, pour peu que le métal, justement, soit en forme. Il se passe des jeux d'ombre et de lumière. Enfin, je dis parfois que finalement, tout ce que je fais, c'est dessiner des passages pour la lumière. En fait, voilà, tout simplement, je mets en scène de la lumière.
Donc vous avez trouvé d'autres outils pour le faire, d'autres manières de le faire aussi?
Que la scie bocphile?
Non,
je continue à travailler la technique. C'est la technique de base, c'est la découpe manuelle. Là, après, c'est une question de perfectionnement de la technique. C'est-à-dire que là, on va parler d'un niveau d'excellence, on va parler de 10 ans de recherche pour mettre au point des découpes plus fines, plus précises, pour travailler.
Mais on peut presque dire, un talent de la rareté. D'ailleurs, vous l'avez dit, je crois, lundi soir, vous êtes la seule à faire
je
ça. Vous avez inventé
seule.
Un métier.
Oui.
Vous êtes la seule.
Un métier, donc.
Oui, voilà. Justement, ça pose deux questions. Alors d'abord, une fois qu'on a inventé cette technique, c'est très bien. Donc, comment on l'a fait vivre, justement? Comment vos créations, est-ce que vous travaillez avec des maisons ou, parce que souvent, la dentelle va être au service de la haute couture ou autre. Est-ce que vous allez travailler avec des maisons? Est-ce que vous travaillez avec des maisons? Est-ce que vous êtes, j'allais dire, en marque propre et vous avez vos propres créations? Ou les deux, mon capitaine?
Les deux, exactement.
Mon capitaine, c'est moi, s'il vous plaît.
Mon capitaine, donc j'ai déjà un capitaine sur le pont du bateau.
Mon commandant.
Donc j'ai ma marque, Sarah Brann, dentelière sur or. Donc moi, je produis en pièces uniques, pièces d'exception, surtout des bijoux, mais aussi des objets. Et il y a d'ailleurs des lignes d'objets qui vont sortir sur 2016-2017. Et j'interviens, j'accepte des missions pour des marques. Mais sous mon nom, donc les marques me citent, c'est ce qui s'est passé avec la maison Guerlain.
Et la fameuse petite robe noire. C'est vous qui avez en partie habillé ce...
Sur la collection exclusive.
Sur la collection exclusive, le flacon de la petite robe noire.
J'ai eu la chance d'habiller
le travail, vous avez inventé un métier. Souvent, les métiers, on en parle beaucoup, c'est la passation. Est-ce que vous avez essayé de passer ce métier-là? Vous avez des stagiaires, des apprentis?
Oui, la passation, on y travaille. J'ai des élèves très régulièrement. J'ai déjà des gens qui viennent se perfectionner au niveau technique, qui viennent approfondir leur propre technique. J'ai des élèves. La question de la transmission se pose. On a un peu le même problème qu'au niveau du MOF.
Les meilleurs ouvriers de France.
Voilà, c'est-à-dire que je pourrais prétendre au MOF, mais il faudrait ouvrir une qualification, puisque le métier n'existe pas. On a la même problématique au niveau de la nomination maître d'art, sur laquelle nous travaillons à plusieurs niveaux. J'ai quelqu'un qui me suit au ministère, mais c'est pareil, il va falloir délimiter le métier.
Vous n'entrez dans aucune catégorie, en fait.
Exactement,
c'est ça,
donc il va falloir créer la définition du métier, ce que je m'emploie à faire.
Et ça, peut-être que le centre du luxe, j'espère, et la création va justement servir de caisse de résonance et de réseautage pour ça.
Tout à fait.
C'est exactement ça. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un nouveau métier qui vient affiner des méthodes de fabrication. Et vous avez raison, il faut que le ministère de la Culture, qui donne le label de maître d'art, comprenne accepte et lance. Mais après, il faudra former il faudra former ensuite des apprentis, il faudra former des gens qui prendront le relais. Là, c'est déjà moins sûr, c'est déjà beaucoup plus difficile.
Plus compliqué. Et toute cette idée de transmission, justement, je me tourne vers vous, Patricia Racine, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important et qui vous a intéressé lorsque vous arrivez chez Robert Four. On va peut-être commencer par présenter Robert Four, la tapisserie.
Alors, Robert Four est une maison moderne à Aubusson, récente, puisque la famille Four est arrivée à Aubusson dans les années 60 pour ranimer ou reprendre, en tout cas pour hériter de ce savoir-faire ancestral qui fait rêver le monde entier. Je suis arrivée il y a 3 ans pour les accompagner à se regarder autrement, car lorsqu'une famille possède une manufacture qui travaille dans ce métier rare et en voie de disparition, la préoccupation est la production et la rentabilité, et on oublie de se renouveler ou on n'ose pas, je crois, se voir autrement. Donc je suis là pour renouveler le geste, renouveler les regards sur eux, et puis renouveler le langage en interne aussi, pour les inscrire dans le 21e siècle.
Qui utilise encore la tapisserie aujourd'hui, à part quelques grands hôtels ?
Alors, à part quelques grands hôtels, ce n'est pas la première réponse à donner. Les grands hôtels ont des tapisseries d'époque, mais ne s'offrent plus des créations récentes. Alors, je ne peux pas citer de nom, car nous sommes dans la rareté et dans le secret dans ce milieu, puisque bien évidemment, nos clients sont des familles royales, sont des collectionneurs qui aiment garder le secret de leur intérieur. Et nous ne répondons, comme dans l'histoire de la tapisserie et du tapis, car nous avons ces deux métiers, nous ne répondons qu'à des commandes sur mesure, spéciale, dans la grande tradition de la démesure.
Qu'est-ce qu'on peut amener quand on est directrice artistique ? Vous disiez, dans un savoir-faire qui est en train de se perdre, avec quelques grands clients, on est un petit peu comme dans la haute couture, ceci dit. Quelles sont vos marges de manœuvre ? Qu'est-ce que vous leur avez amené depuis 3 ans, Patricia Racine ? Qu'est-ce que vous pouvez leur amener aujourd'hui ?
Alors, je leur ai amené, et j'ai beaucoup à leur amener encore, parce que c'est une très longue histoire. Nous remontons au XVIIe siècle, et j'espère que le XXIe siècle
marque... On rappelle, le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson, c'est carrément classé au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. On rappelle aussi juste où se trouve Aubusson, parce que tout le monde a des vieux souvenirs de livres d'histoire, mais
entre Limoges et Guéret.
Voilà, c'est vraiment un terroir. Il y a tout ce poids effectivement de la mémoire, du passé, de l'histoire qui est formidable.
C'est un village
Mais comment, c'est pour rebondir sur ce que je disais, comment on arrive à le faire rentrer dans ce siècle, dans la modernité, et peut-être, ce que vous dites, peut-être les grands palaces, les grands hôtels, les grandes familles aristocratiques, et peut-être sans le démocratiser parce que ça l'abîmerait, mais comment le faire rentrer chez un nouveau public, des gens qui pour eux, Aubusson, ça les impressionne, pour eux c'est une image, une gravure, un dessin qui est peut-être un peu daté, un peu 18e. Comment on arrive à les bousculer ? C'est avec des collaborations avec des nouveaux artistes, des nouveaux designers ?
Oui, tout simplement. Enfin, je crois que si j'ai un métier ou quelque chose à apporter, c'est précisément mon expérience dans le textile. Intervenir sur le fil, sur la teinture, identifier des talents, car je ne suis qu'une passeuse en matière de création. Mon métier, c'est d'identifier des talents légitimes pour redessiner, pour réécrire ce langage de la tapisserie, car c'est un langage, sinon ce ne serait qu'une réplique de toile ou de choses existantes, de créations existantes. Les mettre en matière, puisqu'aujourd'hui on est moins dans le dessin figuratif, mais plus dans la texture, donc ça c'est déjà un renouveau. Le démocratiser, je veux bien.
Je ne pense pas, je disais juste ouvrir peut-être à un public qui ne sait pas et qui aurait... Démocratiser, ça va faire perdre le savoir-faire. Un peu comme on a voulu démocratiser le caviar, il n'y a plus de caviar.
Si le talent de la rareté nous a été attribué, c'est parce qu'en effet, nous sommes déjà dans la contrainte de la rareté des ventes, mais qui devient un avantage puisque nos clients ont besoin d'un grand service. Nous avons besoin de temps. C'est un métier qui est lié au temps de production. Donc, on ne peut pas s'occuper d'énormément de clients en même temps. C'est un travail purement artisanal, dans le domaine de la haute couture, du vrai luxe à la française.
Mais c'est, je crois, ce qui vous réunit tous aussi aujourd'hui. Le luxe, c'est le temps, et le temps, c'est le luxe. Je ne sais pas, Sarah Brand, quand on fait un bijou dentelier, un bijou de dentelle en or, il vous faut combien de temps?
Alors, il n'y a pas de réponse toute faite. Si ce sont des petites boucles d'oreilles de quelques millimètres carrés, ça va pouvoir prendre quelques jours. Si c'est un grand col en forme, ça peut aller à 200, 300, 500 heures.
Voilà. Gérard Séné, si on veut se payer une paire de chaussures, je ne parle pas tout de suite du tailleur, parce que vous faites aussi des chaussures. Chez vous, il faut attendre combien de temps? Combien de temps une paire de chaussures?
Nous, on est prêts. On ne fait pas attendre le client. Quand le client est là, on est là pour faire les choses rapidement.
Mais si
rapidement.
On l'a fait sur mesure?
Je ne fais pas spécifiquement du sur-mesure. C'est un mot qui est utilisé comme le luxe. Sur-mesure et le luxe, c'est les deux mots les plus utilisés, mais qui n'existent plus. Mm-hmm. Donc, il y a un moment, il faut redescendre sur terre. Moi, je suis un pragmatique. Et mes clients, je les éduque. La chaussure, elle est prête. Je peux la faire à sa taille si je ne l'ai pas, sans lui dire que je fais du sur-mesure. Parce que sur-mesure, c'est un autre métier.
Alors, j'ai posé ma question
autrement. C'était le métier de notre ami Monsieur
Massaro,
là.
Combien de temps on met, Gérard Séné, pour faire de beaux souliers?
Moi, je m'occupe pas de tout ça. Je suis un créatif pur, donc moi, je dois avoir l'absolu.
Vous allez quand même dans les ateliers, vous nous parliez des ateliers tout
à
l'heure.
Oui, mais je ne compte pas les temps minutes. J'ai jamais compté les temps minutes de ma vie. Quand vous avez, en 71-72, travaillé avec Thierry Mugler, si vous aviez compté les minutes, vous auriez fermé tout de suite. Donc moi, je fonctionne pas comme ça. J'ai un but. Et donc, à la fin, je dois avoir l'idéal. Je prépare des projets, par exemple, notre ami disait, parlait de rock'n'roll. Tous les deux ans, j'ai un chanteur qui sort de sa tanière pour faire un album. Donc moi, déjà en amont, j'ai travaillé. Quand il arrive chez moi, j'ai un projet à lui proposer. Et à partir de là, je le construis très vite. Il y a des gens qui n'ont pas d'organisation, mais moi j'en ai. Après, le mot luxe, tout le monde l'utilise, mais ça ne veut plus rien dire au jour d'aujourd'hui.
Ah, elle a toutes les variations, toutes les acceptations possibles.
De toute façon, vous dites que vos souliers, ce sont des supercars.
Oui, parce que je me suis inspiré de voitures modernes d'aujourd'hui. Au début, je faisais des américaines, parce que j'ai commencé avec la chaussure d'Orson Welles. Il fallait que je démarre avec quelque chose. Donc j'ai démarré avec les grands acteurs américains des années 40-50, des Gary Cooper, des Mitchum, etc. Et ensuite, mon inspiration, il a fallu qu'elle évolue. Aujourd'hui, je fais des Ferrari, des capots de Ferrari ou de Lamborghini. Parce que d'abord j'ai réinventé les chaussures allongées, donc pour des gens au début
donc,
c'était
si vous voulez
quelque
avoir
chose
l'allure rock'n'roll et ressembler donc à Eddie Mitchell ou à ces grandes stars dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, Gérard Séné, ou aller choisir vos chaussures, eh bien on ira dans les boutiques Gérard Séné, talent de l'audace 2016 au talent du luxe et de la création. Merci beaucoup à vous Sarah Brand, dentelière sur Or, talent de la rareté. Merci beaucoup à vous, toujours sur 2016, et Patricia Racine, merci beaucoup à vous, talent de la rareté également, ex aequo pour la maison Robert Four, Jacques Carle, merci beaucoup à vous.
J'ai envie de vous dire
à l'année prochaine. Presque même heure, même endroit. Il y a eu un petit décalage cette année. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. Restez avec nous. Good Luxe Paris. Week-end continue dans un instant. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, dans Good Luxe Paris, ce sera notre rendez-vous avec l'agenda. Mais tout de suite, nous avons envie de partir en voyage. C'est Good Luxe d'ici et d'ailleurs.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Et c'est avec Capucine Grabi. Bonjour Capucine.
Bonjour Karine.
Comment ça va?
Mais ça va.
Vous et votre travel store, mymoonspot.com.
J'ai changé mon wording, c'est le travel store maintenant. On comprend mieux peut-être.
Ouais.
Qu'on peut réserver en ligne, qu'on peut inspirer, oui. Après réserver en ligne.
Tous les hôtels que l'on souhaite et surtout les expériences qui vont avec. Et
exactement.
Là, vous nous emmenez
alors,
à
là aujourd'hui, j'ai un peu moins l'expérience totalement extraordinaire parce que Singapour, ça reste une ville.
Et ça reste une expérience en soi.
Mais ça reste une expérience en soi. Je voulais juste mettre le point sur, moi je suis allée il y a quelques mois, sur un lieu absolument extraordinaire à Singapour, c'est le parc Garden by the Bay. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui a ouvert il y a quelques années. C'est plus de 100 hectares. hectares en plein cœur de Singapour. Et on fait un voyage un peu initiatique au milieu des forêts et des jardins du monde entier. Donc, il y a le jardin japonais, le jardin français, le jardin anglais. Avec des immenses arbres au milieu qu'on appelle les Super Tree Grove. Ces sortes d'arbres géants en dentelle de métal dans une folie futuriste très framboise. Donc, c'est très, 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 très original. Ça montre vraiment l'envie de Singapour de se développer dans tout ce qui est développement durable, biodiversité, etc. Et donc, c'est juste à côté du Marina Bay Sands Hotel, qui est cette espèce de très grand gratte-ciel. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'impression de vous perdre. Vous n'avez pas été à Singapour il y a longtemps.
Si, il y a longtemps.
Le Marina Bay Sands, c'est un hôtel qui vient d'ouvrir avec trois gratte-ciel et une piscine qui est à cheval sur les trois gratte-ciel et qui surplombe tout Singapour à 200 mètres d'altitude.
Oula,
voilà.
Pas mal.
Donc, c'est vrai
c'est
que c'est très.
C'est une expérience en soi, ça.
C'est déjà une expérience. Ensuite, on a le Marina Bay Sands qui est juste à côté. Et Singapour a fêté quand même ses cinq décennies d'existence l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une ville...
50 ans,
c'est ça. Et donc, c'est une ville qui attire toujours pas mal de touristes, qui est très arty, très pop, très...
Et justement,
très
c'est très, très grands hôtels. C'est pas un peu impersonnel?
Alors, il y a beaucoup de très grands hôtels, beaucoup de gratte-ciel. En matière d'hôtel, il y a le fameux Raffles.
Il y a le fameux Raffles. Ils sont quand même dans la cosmogonie de tous les hôtels mythiques. Singapour,
c'est
qui est un
état
confetti, à l'un des plus beaux hôtels
c'est
au
monde. C'est
mythique,
il
faut y aller.
Même
si aujourd'hui, c'est un peu... un charter à tourisme, mais ça reste
c'est
un bel hôtel.
C'est l'émotion à fleur d'histoire. Il faut
c'est là où
c'est
on a inventé
passage
le Singapour Sling, le cocktail.
Ça, je ne savais pas.
Eh oui.
Mais il y a une nouvelle montée en puissance de petits boutiques hôtels dans des quartiers qui sont encore préservés. Si je vous dis Little India, par exemple, est-ce que vous pensez immédiatement à Singapour?
Non, parce que vous avez vu, on est paumé, nous, à Singapour.
On est paumé, donc il y a encore deux quartiers qui sont très préservés et qui vivent de ces moments-là. Donc il y a Little India, il y a Chinatown. Little India, il y a encore 8% d'Indiens à Singapour. Et donc, cet hôtel s'appelle Wanderlust. C'est un petit boutique hôtel qui a été racheté par un Chinois qui est expatrié à Londres et qui a voulu garder un supplément d'âme à Singapour. Donc ça donne une vieille école des années 20. Il fallait quand même oser acheter à Little India, une vieille école des années 20, qu'il a complètement rafraîchi, rénové dans un style très contemporain avec beaucoup de béton. Et il a donné carte blanche à des bureaux de design et chaque bureau de design a développé un étage en fait. Donc ça fait des étages complètement différents en termes de prix également. Donc au premier étage, vous avez des chambres à peu près à 150 euros. Au deuxième, c'est plutôt 220. Et plus on monte dans les étages, plus c'est cher.
Des classes.
Là, c'est, on peut dire ça
et
comme ça.
Il y a des choses assez radicales et il y a un esprit très Frenchy.
Alors, il y a un esprit très Frenchy. C'est ça, parce qu'il y a un resto qui s'appelle Cocotte, chez Cocotte, au rez-de-chaussée, donc dans cet univers très bétonné. C'est un endroit très sympa, ça s'appelle Wanderlust, c'est dans Little India. Il y en a un autre qui est vraiment mon coup de cœur, c'est cette fois dans Chinatown, et c'est une ancienne maison d'hôte. Donc là aussi, il fallait vraiment être audacieux pour redonner vie à cette ancienne maison d'hôte qui est chargée d'histoire. Et là, en fait, ils sont assez iconoclastes finalement, ils ont donné carte blanche à des designers, mais aussi des artistes. Alors il y a des producteurs, des journalistes qui ont eux imaginé la chambre de leur rêve. C'est comme si je vous disais demain, Karine, Emmanuel, voilà, est-ce que vous pouvez aller dans tel hôtel et imaginer la chambre de vos rêves? C'est quand même compliqué. Donc ça donne...
La chambre de mes rêves ne serait pas celle de beaucoup de gens. Ouais.
Alors ce serait quoi?
Rien, spartiate.
Spartiate.
Un lit blanc, les murs blancs. La même chambre de Jeff Costello dans Le Samouraï, vous savez, Film de Belleville. Très triste.
Très triste. Bon, alors là, c'est très chatoyant. Ça virevolte de partout. Et ça donne quelque chose de très étonnant, avec des lits suspendus, des baignoires de couleur, un hublot dans la piscine qui donne sur une chambre. Enfin bon, c'est assez magique. C'est très frénétique. C'est
temps,
très sémillant.
Il y a une certaine unité quand même de tout ça. Parce qu'on peut dire ça part dans tous les sens. Et finalement, j'ai l'impression
que je pense
quand même...
que l'unité, c'est le côté gypsy, hip-hop, qui colle vraiment un peu décalé, qui colle vraiment à la ville maintenant
et
que je vous conseille vraiment
raide, hein.
de découvrir.
Je trouve qu'elle était beaucoup plus raide, Singapour. Là, on voit les créations, avant, les feuilles s'excusaient de tomber sur le gazon à Singapour. Et dernière chose, je trouve qu'il y a c'est une des plaques tournantes de l'énergie gourmande. Il y a une vraie dynamique gastronomique à Singapour, parce que vous l'avez dit, on parle des Indiens, des Chinois, la Malaisie est tout près, la Thaïlande est pas loin. Donc vous avez, c'est eux un peu qui orchestrent les meilleures food courtes de la place de Paris. Vous savez, ces marchés, vous avez plein d'échoppes. Alors le Canada connaît bien, les États-Unis connaissent bien. Ils ont un peu piqué ça à Singapour. Là, vous rentrez dans ces marchés et vous avez des comptoirs de toutes les cuisines du monde. Et aujourd'hui, en plus, comme il y a une vraie... C'est une plaque tournante du business aussi, donc des expatriés français, anglais. Ils ont toutes les cuisines du monde, avec beaucoup de générosité. C'est un bel appétit, Singapour.
Donc, pour un week-end de 4 jours, ou sur le chemin de l'Australie, de l'Indonésie, de l'Asie du Sud-Est, arrêtez-vous à Singapour. It's time to go.
Et on retrouve les deux adresses que vous avez présentées.
Les deux adresses, New Majestic et Wanderlust.
Sur MyMoonSpots. MyMoonSpots, oui, c'est ça, .com. Parce qu'il y en a plusieurs, des spots.
Il y en a 90 maintenant. Merci.
On va nous revoir 90 fois. Oh là là, c'est énorme,
j'ai déjà parlé de beaucoup d'entre eux.
Bon, il nous reste 87 fois.
En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Capucine Grabi. À très bientôt. Allez, c'est l'agenda dans Good Luxe.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Et en quelque sorte, on continue à voyager dans Paris avec vous, Emmanuel.
Oui, alors, une exposition qui a lieu du côté de la Une. Alors, la Une, je vous en avais parlé il y a quelques mois, elle a sauvé sa peau, cette fameuse librairie de la place Saint-Germain-des-Prés dans le 6e. Elle a été rachetée par Yellow Corner, qui est en fait toujours une librairie, mais qui désormais la double d'une galerie. Il y avait une première exposition, la deuxième vient de commander cette semaine. Elle durera jusqu'au 1er avril et elle rend hommage à un photographe, quand je vous dirai Oliviero Toscani.
Benetton.
Benetton, donc ces fameux, effectivement, photographes de Benetton, assez iconoclastes, assez vindicatif, très porté sur la couleur. Elle avait créé ce fameux magazine Colors, qui était un magazine aussi, lui aussi, qui est une sorte de Vice avant l'heure. Et donc, un hommage à la galerie Librairie La Une, Place Saint-Germain-des-Prés, et surtout, les 18 et 19 mars prochains, le maestro, c'est-à-dire Toscani lui-même, sera sur place et shootera. Qui veut bien être shooté. C'est-à-dire, par contre, il y aura un thème, parce que tout le thème de l'exposition, c'est le couple. Vous savez, ces fameux baisers de Toscani, parfois très dérangeants. Et donc là, il suffit de s'inscrire. Vous tapez www.laune.com, vous allez voir, ça va vous renvoyer un onglet. Vous inscrivez, et le 18 ou 19 mars, en couple, hétéro, bi, je sais quoi, moi, ce que vous voulez, allez vous faire shooter par Oliviero Toscani.
Et bien, génial. Tirage au
sort, c'est une tombola, non, quand là, vous inscrivez, il faut s'inscrire dès maintenant, et puis
premier
quand
arrivé,
le numéro explosif sera atteint, parce que, effectivement, ils arrêteront, alors dépêchez-vous.
Donc c'est un super plan.
Si vous avez envie de vous exhiber, hein, moi à titre personnel, je ne suis pas prêt d'y aller, j'irai à l'expo, mais
alors,
pas...
Alors en revanche, surtout avec Emmanuel, avant Emmanuel, il faudrait que vous passiez chez le barbier.
Barbier.
Et alors là, j'ai un truc pour
vous. Ne vous inquiétez pas.
J'ai un truc
là, c'était le nouvel an russe, c'était pour rendre hommage à mes grands-parents.
Jusqu'au 21 février, Chev in Style, le rasage avec style. On vous a parlé de la nouvelle boutique Chanel Le Marais, 40 rue des Francs-Bourgeois.
C'est vous qui
m'en avez
parlé. Dans
le 3e arrondissement. Voilà, on en a parlé ici même, donc pour découvrir les parfums, la beauté et tout ce qui fait cet univers chez Chanel. Eh bien là, le bon plan, un expert barbier sera présent le samedi et le dimanche, donc jusqu'au 21 février, gracieusement. Pour entretenir, sculpter, styliser vos pads, votre barbe et tout ça. Un seul impératif, il faut prendre rendez-vous. Donc, à nouveau, à vos tablettes, à vos smartphones, 01 49 96 46 00. C'est aussi l'occasion de découvrir les nouveaux produits bleus de Chanel autour de l'univers du rasage. Petite crème de rasage, vous voyez ce que je veux dire? Gel hydratant, voilà.
Moi, j'ai compris, là. C'était un appel, faut que je me rase.
Il y a tout un espace dédié aux hommes. Voilà. C'est so chic de se faire raser gratis chez Chanel.
Ah oui, oui, très bien, ça je veux bien, ça. Y a pas aucun souci.
Je me doute. Allez, un autre rendez-vous.
C'est vraiment l'instant des rendez-vous un peu secrets. On a déjà parlé, Krouille, maison de champagne que vous connaissez, certainement l'une des plus belles maisons de champagne, la privilégiature. Depuis plusieurs saisons, ils organisent les dîners Krouille, généralement des lieux improbables. C'est la 4e édition. Elle aura lieu du 8 au 12 mars. Alors ça se passe comment? Du 8 au 12 mars, dans un lieu cette année, je peux vous le laisser, c'est la serre du musée Nissim de Camando. Donc lieu exceptionnel, ouvert à peu de gens. Le chef qui est invité pour orchestrer ces dîners, Armand Arnal, on le trouve du côté des Baux-de-Provence, du Sud, grand chef s'il en est, d'idées d'exception, qui vont permettre de travailler, à dialoguer le repas, l'assiette avec les fameuses verticales de Krouille, toutes les cuvées d'exception. C'est un moment assez extraordinaire, simplement, on ne réserve pas n'importe comment et n'importe quand, c'est maintenant, ça vient d'ouvrir depuis le 1er février. Si vous voulez avoir de la place, vous allez donc taper krouille-en-capital.fr, vous réservez 2, 3, 4 couverts. Et franchement, pour avoir un jour visité la serre de ce musée Nissim de Commando, c'est délicieux.
Mais là, on aimerait venir tout seul, là.
Ça, c'est intéressant.
Et vous ne nous avez pas donné le prix?
Ah non.
Oh, écoutez, ici, on ne donne pas les prix, madame. Good Luxe oblige. On sait qu'on est dans la privilégiature. Mais très sincèrement, pour avoir accès à un lieu unique qui est généralement fermé, des cuvées d'exception, on parle vraiment de l'aristocratie du champagne. Et un chef comme Armand Arnal, qui monte à Paris, oui, il y a un certain prix. Mais C'est un moment que vous n'oublierez pas. Ça s'inscrira comme ça dans votre mémoire, un petit instant subliminal.
Même si vous pouviez inviter Capucine, ce serait
avec
très
plaisir.
On va d'abord chez le barbier et ensuite voilà. On va à Nissim de Carbone.
D'accord, j'ai compris. Mais vous savez, ça s'appelle un spot, un extraordinaire, un petit peu ce que
déniché,
vous faites.
Déniché.
Voilà. Mais
bon, je vais vous laisser. De toute façon, Good Luck, c'est terminé pour aujourd'hui. Emmanuel, si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et Capucine Grabier, on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup à vous.